Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un sujet qui ne date pas d'hier, mais il est revenu dans l'actualité ces derniers jours après la diffusion de la vidéo d'un élève mettant en joue une enseignante avec une arme factice dans un lycée de Créteil près de Paris. L'affaire a déclenché, et c'est assez nouveau, une libération de la parole de certains enseignants qui, sous le hashtag pas de vague, ont raconté sur les réseaux sociaux leurs expériences de terrain face à la violence. Les réactions officielles et politiques ont également été nombreuses, et l'idée de faire entrer des policiers dans les établissements scolaires n'est pas à exclure, a même expliqué le président de la République ce matin. La police est-elle la solution à la violence et au malaise à l'école? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Annie Genevard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée du Doubs, Les Républicains, parti dont vous êtes secrétaire générale et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et vous êtes également ancienne enseignante en lettres classiques. Et Philippe Vincent, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction, et vous êtes proviseur à Marseille. Je le disais, le phénomène de la violence à l'école n'est pas nouveau. Mais est-il en augmentation pour le nombre d'incidents et pour leur gravité, Annie Genevard?
Moi, j'ai le sentiment que c'est malheureusement un mouvement qui ne fléchit pas. En tout cas, les faits qui nous remontent sont préoccupants. Et comme vous l'avez dit, pas de vague a révélé tout de même un pan caché de la violence scolaire. Et alors, statistiquement, je ne suis pas à même de vous dire si les choses sont en augmentation. En tout cas, leur signalement est clairement en augmentation. Et plutôt que d'aborder les choses sous le seul angle du chiffre, il faut plutôt considérer que aujourd'hui, l'école n'est pas épargnée par la violence. Et ce seul fait, à soi seul, justifie que le ministre de l'Éducation nationale le prenne à bras-le-corps. Et jusqu'à présent, je trouve, avant la révélation des faits de Créteil par cette vidéo, c'était plutôt un angle mort du discours du ministre.
Alors Philippe Vincent, je vous voyais me faire signe, les auditeurs ne vous voient pas, pour me dire que les faits de violence sont plutôt stables.
Les indicateurs qu'on a nous montrent que finalement c'est relativement stable dans la durée, d'autant plus que les signalements dont parlait Madame Genevard sont finalement relativement organisés depuis peu de temps via logiciel dédié. Donc aujourd'hui, on a un vrai outil de mesure relativement fiable. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des éléments mettant en valeur que quelques faits remontent plus facilement sans doute des établissements où ils se produisent.
La police à demeure à l'école, c'est un sujet sensible. Quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi avant de préparer cette émission, on m'a dit « mais t'es complètement fou ». Pourquoi, selon vous, Annie Genevard?
Je pense que longtemps dans les établissements scolaires, il y a eu, je dirais, presque une philosophie, non pas anti-police, mais chacun chez soi et chacun son métier. Or, il me semble aujourd'hui que la situation est suffisamment grave parce que, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas approcher les choses uniquement par le chiffre. D'abord, les signalements aujourd'hui sont encouragés, alors qu'autrefois ils étaient cachés. Et pendant longtemps, on a considéré qu'il fallait plutôt les taire et qu'il ne fallait pas avoir une réponse répressive, mais une réponse uniquement scolaire et pédagogique, voire sociale. Mmh. Et philosophiquement, l'enseignant considérait que, en aucune façon, l'école ne devait s'ouvrir à une dimension policière. Pas de vidéoprotection, pas de vidéosurveillance, pas de portique à l'entrée des établissements, pas de signalement. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus ignorer la gravité des faits. La vidéo de Créteil le montre. Et moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y a des tabous, des intouchables. Dans les établissements où la violence est endémique, où elle est récurrente, où elle est, en termes de gravité des faits, importante, il ne faut pas refuser l'appui de la police, dont c'est le métier et qui a des savoir-faire spécifiques pour traiter des faits de délinquance avérés. Quand vous avez des élèves qui sont comme Astin, par exemple, qui ont été attaqués au marteau, quand vous avez des professeurs giflés, des proviseurs attaqués, des armes lourdes de guerre utilisées aux abords d'établissements scolaires, eh bien là, il faut clairement des réponses appropriées. Et pour moi, la police n'est pas la solution à toutes les difficultés de l'école, naturellement, mais quelquefois, il ne faut pas hésiter à y recourir.
Philippe Vincent, il faut changer d'état d'esprit par rapport à la présence des forces de l'ordre ponctuelle ou à demeure dans les établissements ?
Alors, c'est bien autour de ça que le débat s'organise, c'est à demeure. Mmh. Je pense effectivement que les mentalités ont évolué, la société aussi a bougé. Je pense qu'en particulier, les vagues d'attentats en matière de sécurité ont fait aussi bouger l'école, parce que l'école a bien compris qu'éventuellement, elle pouvait être une cible. Et d'ailleurs, c'est une de nos réflexions de crainte sur un attentat un jour massif à proximité d'un établissement scolaire, parce que ce sont des cibles relativement faciles. Non, l'idée, c'est plutôt d'un policier à demeure, parce que les faits qu'évoquait Madame la députée renvoient bien, je dirais, au contexte plutôt autour de l'école. C'est-à-dire, c'est la société avec sa violence, parlons clair, sa délinquance et ses difficultés, qui aborde l'école, alors soit à ses alentours, soit pénètre dans l'école. Et effectivement, quand c'est des faits de ce type, on en a connu quelques-uns encore récemment, là, je pense que l'école n'est pas équipée ni en personnel, ni en compétences, ni en savoir-faire pour répondre à ces difficultés. Et là, il faut avoir l'honnêteté et le courage d'appeler les forces de maintien d'ordre, parce que on touche là à la spécificité de leur action. Alors, faut bien distinguer les choses.
Oui, les forces de l'ordre donc interviennent déjà dans les lycées en cas de procédure ou d'événements graves, mais donc elles viennent de l'extérieur. Vous parliez de Stain tout à l'heure, Madame Genevard, l'exemple du lycée Maurice Utrillo à Stain, donc en Seine-Saint-Denis. Les enseignants ont fait grève pour dénoncer l'arrivée d'un ancien chef d'escadron, un commandant de gendarmerie, comme proviseur adjoint. C'est pourtant pas exactement une nouveauté, ce genre de reconversion. Ça existe depuis... c'est une tradition presque de la maison, non ?
Bien, dans la fonction publique, on encourage la mobilité. Les professeurs en bénéficient d'ailleurs. Donc, au fond, la nomination de cette personne est le fruit d'une mobilité au sein de la fonction publique. Donc, il n'y a là, sur le principe, sur la question du statut, rien d'aberrant. Moi, je trouve incroyable la réaction des professeurs. D'abord, ils ont entraîné les élèves dans cette affaire, ce qui me paraît fâcheux. Je rappelle que les professeurs sont tenus à une neutralité religieuse et politique. Ensuite, il y a eu à Stain des événements graves. Et je pense qu'on est là dans la réaction des professeurs sur un ancien logiciel. Et moi, je ne connais pas ce proviseur adjoint qui va être nommé, mais je trouve vraiment très regrettable pour cette personne qui a sans doute des qualités humaines particulières, parce que demander à quitter la gendarmerie pour l'éducation nationale, c'est pas une démarche très courante. Ça veut dire que cet homme, il a probablement une appétence particulière pour les questions pédagogiques et un intérêt particulier pour la jeunesse. Et faire ce procès d'intention à cette personne, je trouve que c'est un signe de fermeture, de clôture, et qui ne rend pas service à l'école. Parce que il va pas prétendre se substituer aux enseignants, mais il peut apporter au climat scolaire un apaisement qui lui sera sans doute profitable.
Les anciens gendarmes, et ça je l'ai lu en préparant cette émission, Philippe Vincent, est-ce qu'ils n'ont pas finalement une compétence réelle dans l'encadrement de communautés dans un milieu fermé, comme peut l'être une école ?
Déjà, d'une manière générale, ils ont une excellente formation, très solide. Si c'est un commandant, c'est un officier. On peut penser qu'il est passé par les écoles de formation de la Défense, qui sont quand même réputés pour leur niveau de formation. Et effectivement, on a très peu, finalement, statistiquement, je disais, l'an dernier, on recrute par concours environ 750 personnels de direction. On en recrute une vingtaine ou une trentaine par liste d'aptitude et à peu près autant par détachement. Si ma mémoire est bonne, l'an dernier, il y avait deux collègues de la Défense qui ont demandé un détachement dans l'éducation nationale pour exercer des fonctions de personnel de direction. Donc, statistiquement, on est dans l'épaisseur du trait. Et l'idée qu'effectivement, ses collègues rejoignent le corps des personnels de direction pour y faire une deuxième carrière, autant, puisqu'ils étaient volontaires et que le statut le permet, les employer avec des compétences générales de personnel de direction. Ce collègue, j'imagine, fera les mêmes missions que nous d'une manière générale, dirigera l'établissement auprès du proviseur, présidera des conseils de classe, des conseils pédagogiques, sera à l'écoute des enseignants. Et ma foi, s'il a des compétences particulières de par sa formation initiale en matière de sécurité, qu'on l'utilise à bon escient dans un cas, et le ministre l'a dit, peu d'établissements seront concernés parce que peu d'établissements rencontrent ces vrais types de difficultés, pourquoi ne pas se servir de ses capacités et de ses compétences ?
Annie Genevard, dans quelles conditions une présence des forces de l'ordre au sein des établissements est concevable pour vous ? Est-ce qu'il faut qu'il soit à demeure, qu'il y ait une permanence, mais qu'il ne soit pas là en permanence ? Comment vous le voyez ? C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, notamment.
Moi, je pense qu'il faut d'abord, dans cette affaire, abandonner tous les préjugés et les vieux logiciels qui correspondent plus à l'école d'aujourd'hui. Il faut se garder aussi de généraliser. Toutes les écoles ne sont pas livrées à la violence.
On ne généralisera pas dans cette émission.
Mais on sait aussi que dans des établissements, il y a du harcèlement scolaire, il y a des phénomènes de bande, il y a de la délinquance, il y a de la violence physique, enfin, il y a toutes sortes de formes de violence. Cette semaine ou dans les jours qui viennent, on va avoir la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est un problème majeur. Donc la question d'une école comme lieu préservé de la violence est aujourd'hui clairement posée. L'école ne parvient plus à faire un barrage à la violence des temps et c'est un fait dont il faut prendre tout à fait conscience. Donc, lorsque la violence est récurrente, lorsqu'elle résiste aux adultes, il faut à ce moment-là changer de prisme, changer de philosophie, changer de regard et ne pas hésiter à avoir recours à ceux dont c'est le métier. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a une approche tout à fait globale. Il faut par exemple réinterroger la question de l'abaissement de la majorité pénale. Alors, ça, il faut réinterroger aussi la question de la responsabilité des parents. Les enseignants ne peuvent pas, à eux tout seuls, porter toute la misère sociale du monde et toutes les difficultés du temps, des temps.
Philippe Vincent, je vous pose la question à vous. Dans quelles conditions une présence des forces de l'ordre serait pour vous concevable au sein des établissements scolaires ?
Alors, d'abord, je prendrai un peu le contre-pied de votre question, c'est déjà tout à fait concevable parce que c'est déjà pratiqué. J'ai un souvenir qui date d'il y a plus de 20 ans. J'étais principal d'un petit collège rural en Bretagne. Je faisais intervenir un gendarme, formateur spécialisé anti-drogue, qui venait faire des séances d'information aux parents le soir sur les toxicomanies. Donc voilà, on n'invente pas grand-chose dans la matière. Non, plus sérieusement, je crois que le problème, c'est à quel moment avons-nous besoin d'un appui ? Il y a un certain nombre de situations, je les évoquais tout à l'heure, où l'école touche ses limites, les personnels touchent aussi leurs limites en matière de gestion de la délinquance. On voit des collègues de la police intervenir sur commission rogatoire parce que les élèves, comme jeunes citoyens à l'extérieur, ont commis des délits ou sont suspectés de les avoir commis. On a même parfois des interventions directes parce que les policiers ou les gendarmes agissent en flagrant délit et qu'on peut avoir éventuellement même une interpellation dans un établissement.
Ça se fait en coordination avec le chef d'établissement,
en général ? Alors en général, ça se fait très en coordination avec le chef d'établissement. Nous avons maintenant quasi tous des référents police ou des référents gendarmerie et pour l'avoir vécu deux ou trois fois, que ce soit la BAC ou que ce soit le commissariat de police du secteur, ils nous préviennent à l'avance. Et d'ailleurs, en général, on coordonne notre action parce que pour éviter des incidents redondants, on se débrouille pour que les interpellations, si interpellations il y doit y avoir, se déroulent de manière relativement discrète et de manière organisée.
Au-delà de la question de la présence policière à l'école, il semble y avoir, et ne généralisons pas, j'avais prévu, un problème de respect de l'autorité des enseignants. Comment est-ce que vous l'expliquez, Annie Genevard ?
Alors moi, je pense que la question de l'autorité, elle est posée de façon globale dans notre société. Tout ce qui représente, je dirais, l'autorité publique est aujourd'hui mis en cause. Et au-delà même, parfois, est l'objet d'attaques violentes mettant en cause l'intégrité physique des personnels. C'est le policier, c'est le gendarme, c'est le médecin, c'est le pompier et c'est l'enseignant. Donc
tout ce qui représente l'État quelque
tout
part.
Tout ce qui représente l'État et l'autorité, à certains moments, en certains endroits, est clairement remis en cause. Ça, c'est un phénomène nouveau. Regardez par exemple, le cinéma est très intéressant de ce point de vue-là parce que il traduit bien l'évolution des mœurs. Dans le cinéma d'il y a quelques dizaines d'années, le pire du crime commis, c'était le meurtre de policier. Aujourd'hui, regardez l'attaque, y compris d'ailleurs pour tuer ou pour blesser gravement un policier ou un gendarme, c'est presque...
Ça s'est banalisé, c'est sûr.
Ça s'est complètement banalisé. Mmh. Et ça, c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Et l'enseignant est dans cette situation-là. Et c'est pour ça que ce hashtag « pas de vague », il est au fond salutaire. Parce que moi, je voudrais dire, mais j'aimerais avoir l'avis de M. Vincent sur le sujet. Autrefois, quand il y avait un problème, quand un professeur avait des problèmes avec une classe ou avec un élève, il les cachait, c'était tabou, c'était honteux. Il fallait pas le faire émerger. Et le chef d'établissement lui-même avait tendance à les minimiser, à les cacher, parce que ça mettait en cause sa propre responsabilité de chef d'établissement. Donc aujourd'hui, ce hashtag pas de vague, c'est un peu comme le MeToo, ça a quand même fait émerger. Et je pense que c'est salutaire. Et ça appelle des réactions, à mon avis, plus fortes aujourd'hui que celles du ministre de l'Éducation nationale qui nous dit bah, « on va voir ce qu'on va faire ».
Alors justement, bah, je rebondis là-dessus. Les enseignants qui sont victimes d'incivilité, voire de violence, sont-ils suffisamment soutenus par leur hiérarchie ? Le hashtag « pas de vague » qui évoquait Annie Genevard a permis de découvrir des histoires assez surprenantes quand même. Des conseils de discipline qui ne sanctionnent pas, des enseignants à qui on demande de s'excuser après un incident avec un élève. Est-ce qu'il y a suffisamment d'échanges avec la hiérarchie ? Est-ce que les enseignants sont suffisamment formés, Philippe Vincent ?
Alors, il y a en gros trois sous-questions dans ce que vous nous demandez. Il y a la question de l'appui à l'enseignant en difficulté. Alors effectivement, encore faut-il qu'il s'exprime et on peut se poser la question de pourquoi s'exprime-t-il à ce point via Twitter et peut-être beaucoup moins en direct auprès de leur chef d'établissement. Il y a sans doute une relation de confiance quelque part posée.
Il y a sans doute
posée.
Quelque chose à creuser. Ouais,
voilà, il y a sans doute quelque chose à creuser autour de ça. Deuxièmement, il y a un phénomène, je veux dire que pendant très longtemps, le maître a été le maître dans sa classe parce qu'il était l'expert disciplinaire et que ça suffisait pratiquement pour l'imposer et imposer une autorité du maître. Aujourd'hui, cette autorité est beaucoup remise en question et il y a sans doute aussi à questionner la formation des enseignants autour de la tenue de classe, de la compétence à manager un groupe, du métier d'enseigner qui ne peut plus être simplement dispenser une discipline.
Ils sont demandeurs là-dessus d'ailleurs, les enseignants ?
Alors je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont confrontés à des difficultés. Alors certains les surmontent avec de l'expérience, du savoir-faire. Il y a quand même, je pense, un gros défaut de formation continue dans la cuirasse de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut apporter, même s'ils ne sont pas demandeurs initialement, une espèce de clause de revoyure régulière parce que les difficultés sont quand même prégnantes aujourd'hui dans les établissements.
Vous en parliez, Annie Genevard, dans sa réaction. Le ministre Jean-Michel Blanquer a semblé non pas mettre en doute ce qui se racontait sous ce hashtag, mais disons relativiser, mettre un petit peu le phénomène à distance. Quel message il envoie en faisant ça, Jean-Michel Blanquer ? Selon vous.
Moi, je pense qu'on a peur en France de la sanction. On a peur de la sanction. Et la sanction, elle a une dimension éducative. Et moi, je crois que le ministre de l'Éducation, il a été pris de court par cette situation, par ce hashtag pas de vague. Sa première réaction était de dire faut interdire les portables au lycée parce qu'on avait filmé la scène de Créteil. Mais je dirais au fond c'est salutaire qu'elle ait été filmée parce qu'elle a permis de révéler et cette réponse complètement décalée a montré un ministre qui était manifestement pas complètement raccord à la violence qu'il a découvert en même temps que tous les Français. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la sanction. Aujourd'hui, dans notre pays, vous savez, il y a 100 000 peines qui ne sont pas exécutées. 100 000 peines. Et cette peur de la sanction, ou cette incapacité de la sanction, elle est redoutable parce qu'un jeune qui commet un délit, et qui sait qu'il commet un délit, qui n'est pas sanctionné, ou c'est un encouragement à poursuivre.
Philippe Vincent, est-ce que jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire de l'État, est-ce que l'exemple n'est pas donné, tout simplement ? Les gens ne prennent pas leurs responsabilités ?
Alors je pense effectivement qu'il y a sans doute eu un coup de surprise. Et d'ailleurs, la réponse qui est on l'a dit dans un communiqué, le énième plan d'action est quand même une reprise de fait des plans précédents. La plupart des mesures proposées sont déjà pratiquement en place ou à développer. Donc je dirais qu'en la matière, c'est sans doute à développer largement.
Le plan sera présenté avant la mi-décembre en principe. Merci Philippe Vincent, merci Annie Genevard, merci à vous d'avoir participé à cette cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Valentin Vader. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. On part à Naples, place au foot.